Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous êtes dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on décortique notre vie quotidienne pour la rendre encore meilleure. Et puis on s'intéresse aussi à notre santé, tout ça c'est tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui Julia, quel est notre programme ?
Eh bien Mélanie, ce matin on va commencer par se poser cette question, et si bien parler pouvait changer notre vie ? Je me concentre du coup, à savoir comment les mots, les bons mots modifient parfois notre destin. On verra ensemble en quoi notre façon de nous exprimer peut être une arme vers de nouveaux horizons. Pour tendre dans cette direction, notre invité ce sera aujourd'hui le célèbre avocat Bertrand Perrier. Il vient de publier le livre « Sauf qui parle, quand la parole change la vie » aux éditions J.C. Lattès.
Ensuite, à 11h35, il y aura notre dossier santé du jour, dans lequel nous vous proposons un décryptage sur l'aromathérapie. Comment bien utiliser les huiles essentielles, mais principalement pour faire du bien à nos enfants ou nos ados. En effet, chez les plus jeunes, ces produits, certes d'origine naturelle, sont à manier avec précaution. On fera donc le point avec le docteur Françoise Couic-Marinier. Elle est docteure en pharmacie et la co-autrice du livre « Huile essentielle pour les enfants et les adolescents » aux éditions Solar.
Ensuite, Mélanie, dès midi, comme tous les jours, ce sera notre séquence tendance avec un trio de chroniqueurs autour de nous. Alors pour la gastronomie, ce sera le chef Abdel Alaoui qui est d'humeur sucrée aujourd'hui. Il va nous apprendre à réaliser les meilleurs cookies du monde. Oh là, j'en salive déjà. Et ensuite, le docteur Oren Marco, alias Dr Beauty sur les réseaux sociaux, viendra nous décrypter une mode dans le secteur esthétique, la bichectomie, ou comment se débarrasser de nos boules de bicha. Rien de sexuel, promis, on parle juste de ces petits amas de graisse qu'on peut avoir au niveau du visage.
Et enfin, pour finir ce tour de table des tendances, dans le dynamisme, tous les mardis, notre coach sportif Jean-Marc Delorme se joint à nous. Ce midi, il a décidé de nous donner tous ses secrets pour se mettre à la course à pied, pour y prendre du plaisir et surtout sans se blesser, c'est quand même le plus important.
Europe 1.
Eh bien voilà, c'est bien fait pour vous. Vous êtes sur Europe 1, bien sûr. Et donc ce matin, dans votre émission bien-être préférée, on va essayer de répondre à cette question. Et si bien parler pouvait changer notre vie ?
Eh oui, Julia, on va en parler ensemble dans un instant. Comment on peut utiliser les mots, les bons mots au quotidien pour que cela change parfois même le cours de notre destin. Mais avant cela, lui aussi, il aime les mots. Il nous fait rire, sourire tous les jours avec ceux qu'il récolte pour nous de mots dans la rue. C'est donc Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour, il aime surtout parler, Clément Lanoux. J'étais ravi de partir avec un micro, effectivement, sur les routes de France pour essayer d'avoir des réponses. Il paraît que la parole peut sauver. Alors, le premier métier que je suis allé interroger, évidemment, c'est une psychanalyste. Il paraît que les mots peuvent sauver.
Imaginons quelqu'un qui a des angoisses, des phobies, qui veut perdre du poids, prendre du poids, qui veut se muscler, etc. Mais tant que vous ne parlez pas et tant que vous ne comprenez pas ce qui se passe pour vous, quel est votre désir, comment vous vous inscrivez, vous, là-dedans, dans votre problématique, vous n'y parviendrez pas. Et la parole, ouais, ça sauve.
La parole peut sauver. Numéro 1, psychanalyste. Numéro 2, on va en parler dans un instant, il y a un métier où la parole est vraiment importante, comme nous le dit cet ado avec cette voix qui est en train de muer. Hein.
Bah, déjà, l'exemple, c'est qu'il y a des métiers qui s'appellent les avocats. Déjà, très bon exemple. Et oui, dans un film Chicago, il y a une femme qui est complètement en tort. Elle arrive à avoir le meilleur avocat du pays et finalement, elle arrive toujours à s'en tirer.
Donc la parole peut sauver, peut même servir justement à gagner peut-être un procès où on était en difficulté. La tolérance également fait partie de la parole. Pour éduquer ses enfants, la parole est importante et peut sauver.
Alors, la parole peut sauver, en parlant à nos enfants de tolérance, de respect, respecter en premier la vie, ce qu'il y a de plus important.
Et là, vous vous dites, mais moi, j'aime pas parler, forcément, faire
nous,
de grandes phrases.
Nous, ça va, on aime bien, mais...
Nous, ça va, on aime bien. Ah bah, sachez qu'un mot, et c'est une enfant qui me l'a appris, un mot peut sauver, elle l'a découvert dans un livre.
La parole, oui, peut sauver. J'ai lu un album qui s'appelle « Le mot qui arrêta la guerre », très bel album. Et donc, ce certain mot, c'est donc « Pourquoi ?». Et quand les soldats de l'armée y voient ce mot écrit... Ils se disent, mais c'est vrai, pourquoi faire la guerre ? Et il y a des mots tout simples comme ça qui peuvent faire de grandes choses.
Ouh là là, elle parle bien déjà celle-là, jeune. Mais
elle m'a mis une
incroyable.
Claque d'entrée. Ouais. Et puis pour finir, quand même, on le sait, la parole peut sauver. Le mensonge aussi, apparemment.
Oui, surtout quand tu dois mentir, par exemple. Ah non, mais cette robe, elle te va vraiment à ravir. Hein.
Ça peut servir également de maîtriser la parole, donc je suis tout ouïe justement pour le sujet du jour.
Ah super, vous parlez tellement bien, Clément Lanoux. On va vous retrouver demain avec un autre reportage et d'autres bons mots d'enfants ou d'adultes d'ailleurs. Vous donnez la parole à tout le monde, c'est ça qu'on aime avec vous. Alors à présent, c'est à notre invité qu'on va donner tout de suite la parole. Bonjour Bertrand Perrier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes avocat et enseignant de l'art oratoire à Sciences Po et HEC. Vous êtes également l'auteur du livre « Sauf qui parle » aux éditions J.C. Lattès. Alors on va le voir avec vous, mais la parole avec un grand P n'est pas réservée qu'à une certaine élite ou ceux qui sont à l'aise. Est-ce que même les plus timides peuvent arriver à manier les mots ?
Oui, absolument. Et généralement, on voit que les gens qui ont été timides ou qui le sont encore accordent une telle importance à la parole que leur parole est souvent très riche parce qu'ils en connaissent le prix. Mmh. Alors que les beaux parleurs, ceux qui ont la parole facile, souvent confondent quantité et qualité.
Alors justement, dans votre livre, on apprend que vous, vous êtes un ancien timide, on a vraiment du mal à le croire, mais quel a été le déclic pour vous ? Comment êtes-vous devenu l'avocat et le professionnel de l'éloquence qu'on connaît aujourd'hui ?
Alors c'est vrai que j'étais très timide enfant, je faisais un exposé poussif, une récitation un peu nulle, mais à un moment, j'ai passé des concours d'éloquence, parce que en fait, les avocats se distraient parfois en s'exerçant à ce qui est évidemment le cœur de leur métier, c'est-à-dire la parole, mais hors audience. C'est-à-dire que le soir, ils font des concours d'éloquence. Et donc, j'ai passé ces concours d'éloquence. Alors, c'est formidable parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Quand on défend quelqu'un devant une juridiction, il y a un enjeu, c'est important, c'est les intérêts d'un autre que l'on porte par sa parole. Mais dans ces concours d'éloquence, on peut s'exercer de façon gratuite. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, évidemment, pour ceux qui sont très timides, il y a une petite barrière à l'entrée. J'ai choisi de passer ça. Mais finalement, ce n'était pas très grave. Il ne pouvait pas m'arriver grand-chose. Et donc, pour tous ceux qui sont très timides, il faut juste se dire que c'est vraiment que le premier pas qui coûte. Mais je peux vraiment dire que le jeu en vaut absolument la chandelle, parce que derrière, c'est toute une vie nouvelle qui s'ouvre, qui est plus riche, plus féconde. Et c'est vrai que depuis, quand je dis la parole a changé la vie, en tout cas, elle a changé la mienne.
Oui, apparemment. Hein, ça permet de sauver des destins, le vôtre, mais d'autres de personnalités connues dont on parlera dans quelques instants. Mais en quoi cette parole est plus efficace ou serait plus efficace que l'écriture d'un livre, par exemple ?
Je ne dis pas que l'écrit et l'oral, y aurait une supériorité de l'un sur l'autre. Je dis qu'ils concourent tous les deux à l'existence. C'est marcher sur deux jambes, en réalité. Et l'écrit et l'oral sont deux compétences essentielles. Je crois qu'il y a quand même dans l'oral quelque chose de tout à fait particulier. C'est la spontanéité. Mmh. L'écrit, vous pouvez raturer, alors qu'à l'oral, vous êtes vraiment vous-même. Vous êtes complètement, j'allais dire, nu, parce qu'effectivement, vous êtes en danger quand vous parlez. Vous ne pouvez pas rembobiner si vous n'êtes pas content. Mmh. C'est ce qui fait que c'est extrêmement engageant de parler. Et puis, dans l'écrit, le message se résume aux mots que vous employez, alors qu'à l'oral, il y a une dimension physique, il y a du regard, il y a du geste, il y a votre voix. Donc, c'est toute votre personnalité qui est en jeu dans l'oralité.
Bertrand Perrier, avec les nouvelles technologies, est-ce que vous n'avez pas peur, pas l'impression que la jeunesse peut-être va se renfermer justement sur elle-même, avec une génération qui préfère quand même bien souvent le SMS, même à l'appel tout simplement, à parler de vive voix? C'est inquiétant selon vous?
Oui, bien sûr que la jeunesse est très attirée aussi par l'image d'Instagram, bien sûr, mais il y a aussi dans ce livre, qui fonctionne sur des portraits, parce que moi je crois beaucoup au rôle modèle. Parce que j'ai eu mes rôles modèles, j'ai eu mes mentors dans la prise de parole en public, et donc j'ai sélectionné dans ce livre une vingtaine de personnalités qui peuvent servir aussi à tout un chacun de modèles. Et ça s'ouvre sur le portrait d'un ado, justement Abdallah, qui lui aime la lecture et fait des conférences TED. Parce que les jeunes, c'est vrai que parfois, ils sont un peu fascinés par le SMS, par le langage SMS, par l'image, mais ils aiment aussi regarder. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils aiment regarder des youtubeurs. Il y a aussi d'ailleurs dans ce livre Hugo Travers, qui est connu sous le nom de Hugo Décrypte, qui décrypte l'actualité justement pour les jeunes. Et donc, c'est pas simplement de se dire que la parole, elle n'est pas soluble dans les réseaux sociaux. Elle est transformée par les réseaux sociaux, mais elle est aussi totalement accessible à la jeunesse.
Très bien. Bertrand Perrier, on ne fait que commencer cet entretien dans un instant. On va voir ensemble comment concrètement prendre la parole peut nous changer la vie. On évoquera même des cas de célébrités que vous avez rencontrés, comme le footballeur Bichente Lizarazu, pour qui les mots ont aidé à sa reconversion. Tout ça, c'est dans quelques minutes et c'est sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole. Dalida et Alain. Alain Delon qui utilisait déjà la parole, n'est-ce pas, Julia?
Oui, mais lui racontait n'importe quoi.
D'accord. Allez, on dit pas n'importe quoi. De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Bien-être Feel Good. Ici, on tente chaque matin de vous rendre tout simplement la vie plus facile. Et aujourd'hui, donc, on s'adresse même aux plus timides d'entre nous, d'entre vous qui nous écoutent, et on tente de répondre à cette question. Et si bien parler pouvait changer notre vie, on y répond grâce à un maître en la matière, un maître tout court d'ailleurs. Nous sommes avec Bertrand Perrier, avocat, enseignant de l'art oratoire et l'auteur du livre Sauf qui parle aux éditions J.C. Lattès. Alors pour l'écriture dans votre livre, vous avez rencontré des personnalités. On a parlé juste avant donc de la voix d'Abdallah qui lui a permis de sortir donc de son milieu social. Mais les pouvoirs de la parole vont encore plus loin car elle permet parfois aussi de sortir de la délinquance. Expliquez-nous.
Oui, bien sûr. Là, je me suis appuyé sur le témoignage de Bruce. Bruce que j'ai rencontré dans un concours d'éloquence précisément alors qu'il avait fait 10 ans de tôle. Parce qu'il a réfléchi justement pendant ce temps de détention à ce qu'il allait faire. Il pouvait choisir de récidiver et puis il a choisi de s'en sortir par la parole. Il s'est familiarisé, il s'est dit en fait, si je suis entré dans un cycle de violence, c'est parce que je n'arrivais pas à trouver les mots et que si j'ai été condamné si lourdement, c'est que je n'ai pas su m'expliquer devant le juge. Mmh. Et donc pendant toute sa période de détention, il l'a mise à profit pour se familiariser. Il est devenu un grand orateur. Alors tout le monde n'a pas vocation à ça, mais lui, c'est devenu pour lui une passion et il est aujourd'hui une sorte d'ambassadeur des mots et il explique partout à quel point la parole l'a sauvé de la délinquance.
Alors il y en a d'autres hein, qui ne sortent pas de prison mais qui ont besoin de se reconvertir professionnellement par exemple. Est-ce qu'on peut dire par exemple que la parole est quelque chose qui a aidé Bichente Lizarazu à poursuivre sa carrière d'ex-footballeur et à changer de vie?
En réalité, il le dit lui-même, c'est pour ça que ça m'intéressait de le rencontrer. Il dit à quel point le fait d'avoir bien maîtrisé la parole lui a permis, à la fin de sa carrière sportive, de trouver tout de suite une reconversion en tant que commentateur et qu'en réalité, ses employeurs de télévision l'ont quasiment repéré au bord du terrain comme étant ce qu'on appelle un bon client pour les journalistes. Il s'exprimait bien, il avait une bonne parole, et bien tout de suite, ça lui a permis d'avoir une reconversion réussie. Donc effectivement, la parole, elle sert dans tous les métiers. Mmh. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas des métiers de parole. Tous les métiers ont une composante de parole. Savoir expliquer ce qu'on fait à un client, à un collègue, à un prospect, bien même sûr, à un journaliste, c'est important dans tous les métiers.
Même un manager, quel qu'il soit, a besoin de prendre la parole auprès de ses équipes.
Mais on voit à quel point les grands patrons aujourd'hui sont tous aussi de bons orateurs. Mais pourquoi? Parce que la parole, elle dit tout de vous. Il y a une étude qui a été faite qui montre que vos 7 premiers mots permettent déjà de vous classer dans une catégorie. Donc, c'est pas non
en
plus...
En général, c'est papa le premier, mais je sais pas si c'est...
Non, vos 7 premiers mots, pas chronologiquement. Ah, mais lorsque vous vous présentez dans un entretien d'embauche, par exemple, vos 7 premiers mots sont à ce point essentiels qu'ils vont conditionner tout le reste.
C'est incroyable, hein, le choix du vocabulaire, tout ça. Bien sûr. D'où l'intérêt de lire.
Clément Lanoux.
Alors, vous parliez tout à l'heure de qualité des mots. Justement, il y a une différence, j'imagine, entre bien parler et beaucoup parler. C'est quoi les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un au-delà des concours d'éloquence au quotidien pour améliorer, entre guillemets, sa parole?
D'abord, la première chose qu'il faut se dire, c'est que parler, c'est faire le deuil de la perfection. Il ne faut pas se dire que ça doit être parfait, sinon ça n'existe pas. Et ça, souvent, les Français, on est spécialistes pour ça. On se dit que si ce n'est pas Robert Badinter ou Fabrice Luchini, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas vrai. La parole, c'est d'abord l'expression de soi, avec toutes ses imperfections, avec toutes ses scories. Et je ne crois pas du tout que la parole soit une perfection formelle. Par exemple, j'ai participé la semaine dernière à un cours d'éloquence pour des bègues. Mais ils ont 1000 choses à dire. Alors, on se dit que formellement, c'est très paradoxal de faire de l'éloquence alors qu'on est bègue, mais pas du tout. C'est pas parce qu'on est bègue qu'on a moins à dire. Et donc, je crois pas du tout qu'il faut s'attacher à une sorte de perfection comme un bel objet de vitrine. Pas du tout. Il faut se dire que, même si c'est pas parfait, ça existe et ça a de la valeur. Après, pour choisir les mots, il n'y a pas 36 solutions. Il y a la lecture et puis aussi l'observation des autres. Sur Internet, on a 1000 occasions de regarder des orateurs. Mais regardez-les et puis faites-le. Faites-le, mais peut-être petit à petit. Et c'est comme si vous disiez... je vais monter une échelle et puis le premier barreau il est à 2 mètres du sol. Bah, vous ne montrez pas l'échelle. Simplement, vous pouvez vous dire, bah, tiens, je vais prendre la parole 1 minute, 1 minute 30. C'est déjà beaucoup pour beaucoup de personnes.
Alors, vous avez rencontré un animateur d'Europe 1, Olivier Delacroix, qui anime la libre antenne ici tous les soirs. Et vous dites qu'il a le verbe facile et vous dites que Qu'est-ce qui fait finalement que nos auditeurs ont tellement envie de lui parler le soir?
C'est sa sincérité en réalité, tout simplement. C'est son ouverture d'esprit. C'est un des plus beaux pour moi chapitres du livre. Je ne savais pas parce que
il était. Tant mieux, on est bien contents.
C'est une super belle rencontre, la rencontre avec Olivier Delacroix, parce que Olivier Delacroix, c'est un accoucheur de mots. Il arrive à créer dans la nuit. Parce qu'il y a aussi cette intimité de la nuit, un espace de confidence, un espace aussi de temps, parce que dans la parole, il y a toujours une urgence. Aujourd'hui, on a 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, et donc on n'a pas le temps de se dire. Et il arrive à accoucher des personnes, parce qu'il a parfois 20 minutes, 30 minutes, il prend le temps, et il arrive à faire dire à des gens des choses d'une intimité extraordinaire.
Mais la nuit aide, hein, vous dites aussi.
Et la nuit aide, et crée une sorte de cocon factice. Alors qu'en réalité, il y a des dizaines de milliers d'auditeurs, mais ça crée la confidence.
Bien sûr, Clément.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez des cures de silence? C'était à la mode il y a quelque temps, de se retirer par exemple un mois, deux mois, un an dans un monastère pour faire le point et
vous
ça se sauvait
pas,
également.
Vous pourriez pas,
moi,
je pense.
Je n'en sais rien, je n'ai jamais fait l'expérience, mais est-ce que ça peut accompagner aussi la parole ou c'est complètement l'opposé?
Mais le silence est essentiel dans la parole. C'est comme le blanc est essentiel dans la peinture. C'est-à-dire que ça rehausse la parole. Et ce qui est très important aussi, c'est l'écoute. J'ai écrit évidemment sur la parole, mais la face cachée de la parole, c'est l'écoute. On parle comme une sorte de monologue, ça n'a aucun intérêt. Parler, c'est aussi écouter ce que l'autre a à m'offrir et à me féconder par sa parole, par sa différence. Et donc, la parole, si c'est des monologues juxtaposés, comme c'est souvent le cas, aujourd'hui notamment, on voit dans les punchlines où on est en train de parler pour terrasser l'autre. Moi, c'est tout ce que combattent les gens que j'ai rencontrés dans le livre. En réalité, la grande leçon de ce livre, c'est que la parole, elle doit être apaisée et constructive. Mmh. Et tous mes interlocuteurs me disent cela, qu'ils n'en peuvent plus de cette parole violente, abrupte, qui est dans la société aujourd'hui, et qu'il faut retrouver le goût du débat.
Alors, je pensais, pendant que vous parliez, à ce livre qui m'avait tant plu, qui s'appelait « L'art de se taire ». Donc, je vous le conseille à tous aussi, parce qu'effectivement, c'est très joli ce que vous dites par rapport au blanc dans la peinture. Et effectivement, les silences ont aussi leur importance. Mais chez le psychologue aussi, c'est l'art de parler. Ça sert à ça aussi, un psychologue, à libérer la parole, non?
Alors, évidemment, parmi les personnalités que j'ai rencontrées pour ce livre, il y avait un psychanalyste. Hein, vous avez commencé votre sujet sonore par un psychanalyste. J'ai rencontré Jean-Pierre Winter, qui est un grand psychanalyste. Et donc, il explique à quel point effectivement la parole, alors il parle lui de parole pleine ou de parole vide, il dit parfois le psychanalyste est simplement une présence et puis parfois il intervient, mais évidemment par sa présence simplement, eh bien la parole de l'analysant prend tout son sens et permet aussi sa guérison.
Mmh. Alors dans un chapitre de votre livre, vous allez jusqu'à dire que la parole, les mots peuvent soigner. C'est l'exemple de la neurologue Sophie Talmen. Qu'est-ce qu'elle a changé dans sa façon de soigner, de soigner ses patients?
En réalité, la parole du médecin est essentielle. Je voulais absolument rencontrer un médecin parce que souvent la parole médicale est conçue comme purement scientifique, extrêmement froide. Le patient est réduit à un cas.
Elle a été mise à mal pendant la
elle
pandémie.
A été très mise à mal dans la pandémie où on a vu d'ailleurs qu'elle était très diverse, très sujette à caution, même gangrénée par des polémiques politiques. Et en réalité, c'est toute la leçon de la pandémie, c'est que les médecins ont fait de la politique et les politiques ont fait de la médecine et que ça ne va pas du tout. Et donc, moi, j'ai voulu rencontrer un médecin pour qu'elle m'explique comment elle parlait humainement aux patients de leur maladie, de leur guérison et comment, j'allais dire, les mots MOTS soulageaient les mots MAUX. Et donc, finalement, elle m'explique combien la formation médicale est carencée aussi dans cette capacité à dire les choses et à ne pas seulement dire une maladie, un diagnostic, mais aussi dire une humanité.
Alors vous nous avez parlé de beaucoup de personnalités connues du grand public qui ont été sauvées par les mots, leur destin a été changé. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a changé grâce aux mots? Qu'est-ce qui a changé votre vie?
Ce qui a changé ma vie, c'est que d'abord, professionnellement, j'ai eu une vie plus riche parce que j'arrivais mieux à parler, à exprimer les opinions et les arguments que mes clients voulaient que je porte devant le juge. Mais bien au-delà de ça, je crois qu'aujourd'hui, j'ai une vie plus riche, amicalement, dans mes engagements sociaux. Et honnêtement, moi, ça a vraiment changé mon existence que de pouvoir simplement dire ces émotions. En réalité, la parole, c'est pas très compliqué. C'est rendre intelligible ses opinions.
Combien de temps ça vous
opinions.
A pris pour en arriver là?
Mais c'est l'affaire d'une vie, en réalité. Rendre intelligible, c'est ses opinions et ses émotions. Juste se faire entendre et se faire comprendre. C'est ça la parole, c'est pas beaucoup plus.
Il faut avoir le courage de se lancer surtout. Merci Bertrand Perrier, on va rester encore un peu ensemble. On a d'autres questions pour vous et nos auditeurs aussi. On va leur répondre dans quelques minutes. D'ailleurs, je vous le rappelle, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore au 3921, notre répondeur.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en train de répondre à notre question du jour et si la parole pouvait changer notre vie. Notre guide d'éloquence ce matin, c'est vous, Bertrand Perrier. Je rappelle que vous êtes avocat, enseignant de l'art oratoire à Sciences Po et HEC et l'auteur du livre « Sauf qui parle » chez JC Lattès. Alors on a cette question de Laure-Lise sur notre compte Instagram qui demande si avec le phénomène MeToo, est-ce qu'on peut dire que c'est la parole des femmes qui a fait avancer la société.
Évidemment. Et je consacre un chapitre, évidemment, avec Loulou Robert, à la question de l'émergence de la parole des femmes, bien sûr, parce que toutes ces souffrances qui avaient été enfouies, en réalité, elles sont apparues à la face du monde parce que certaines ont pris la parole. On insistait tout à l'heure sur les rôles des rôles modèles, sur l'importance des rôles modèles. Là encore, Loulou Robert explique à quel point les tête de file dans cette libération de la parole des femmes ont été importantes. Elle a parlé parce que d'autres avaient fait le premier pas avant elle. Donc évidemment, on voit bien l'importance et la difficulté de la parole des femmes pour libérer leurs souffrances. Après, au-delà, il y a évidemment la question du recueil de la parole. Libérer la parole, c'est bien. Libérer le traitement judiciaire, notamment de la parole, ce serait mieux.
Chose. Alors, une question qui va intéresser tellement de monde. Nicolas C, sur la page Facebook de l'émission, qui dit « Je n'ose pas prendre la parole en réunion, j'aimerais, mais il n'y a rien. Enfin, rien que d'y penser, je tremble, j'ai des sueurs. Est-ce que vous auriez 2-3 conseils à me donner pour espérer y parvenir un jour ?»
Oui, alors, 2-3 conseils. D'abord, vraiment identifier bien ce qu'il a envie de dire. Vraiment un message, juste je ne partirai pas de cette réunion sans avoir dit ça, parce que sinon je serai spectateur de la réunion et donc je vais y assister comme l'arbitre à Roland-Garros, ça n'a pas d'intérêt. Donc première chose, vraiment bien dire le message. Ensuite, s'imaginer avant la réunion en disant voilà, je vais dire cela mentalement, je vais être dans cette situation, je vais être avec telle et telle et telle personne et je vais le dire. Si je l'ai pensé avant, au moment où je le fais, c'est infiniment plus facile. Et sur le moment, bien respirer et y aller.
Bon, on a également Arlan Jettel. On a beaucoup de questions pour vous sur Instagram qui nous demande si l'école actuelle est un bon endroit pour améliorer son éloquence. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ?
Alors, ce qu'on peut lui répondre, c'est que non, mais ça s'améliore.
Ah bon, ça va.
Longtemps, la parole a été le parent pauvre de l'éducation en France. Songez que jusqu'en 1902, la classe de première s'appelait une classe de rhétorique parce qu'on étudiait les grandes techniques de discours et puis ça s'est étiolé petit à petit et ça revient. Ça revient parce qu'on a compris que l'écrit et l'oral, comme on le disait tout à l'heure, sont également importants dans la vie. Et donc, on a créé cette année un grand oral au baccalauréat.
Moi, je suis bluffée, par exemple, en primaire. Enfin, bluffée, je suis plutôt estomaquée quand je vois que mon fils, à l'époque, quand il était en primaire, on lui faisait apprendre des récitations comme nous. Mais alors, par contre, le ton, tout ça, on s'en fout. Il fallait juste qu'il connaisse le texte. Il me dit non, nous, le ton, il ne faut pas le mettre. Sinon, tout le monde se moque de nous, on ne fait pas. Alors, nous, on n'avait pas le choix. Enfin, moi, j'ai souvenir, enfant, on était noté aussi sur le ton qu'on mettait dans cette poésie. Ouais.
Mais alors, attendez, parce qu'il y a quand même une grande ambiguïté là-dessus. Vous dites la question de la récitation. C'est bien d'apprendre les grands textes. Mais la parole, ça ne se résume pas à dire les grands textes des autres. C'est aussi se dire sa vérité. Et les anglo-saxons, vous parlez du primaire. Dès le primaire, ils ont une pratique qui s'appelle name and tell, c'est-à-dire que chaque jour, quelqu'un, un élève, vient à tour de rôle raconter une histoire, présenter un objet, évoquer un personnage librement. Et c'est pas seulement dire le texte d'un autre, c'est dire sa vérité, la parole.
Et son texte à soi. Alors, on a une question de Pauline au 39-21. Y a-t-il une bonne posture, une façon de se tenir à adopter pour au moins avoir l'air à l'aise à l'oral ? Elle dit, moi, mes mains, je sais jamais quoi en faire, quand en plus elles tremblent parfois, je vais quand même pas les mettre dans mes poches.
Alors non, c'est dommage de les mettre dans ses poches parce qu'on se prive aussi d'une façon de s'exprimer puisque les mains parlent également pour vous. Alors, en réalité, la posture la plus simple et la meilleure, c'est-à-dire les pieds bien ancrés dans le sol, le buste bien droit, un peu comme un T, vous savez, le sternum bien horizontal et les épaules bien verticales et bien horizontales les épaules, et vous imaginez que vous avez un fil qui relie votre haut du crâne au plafond. Et là, vous êtes bien. Après, avec vos mains, en réalité, il faut les mettre devant soi, librement, un peu comme un prêtre, vous voyez, qui fait comme ça devant soi, mais essayez que vos gestes soient expressifs. C'est-à-dire que si vous êtes dans la précision, bah, vous pouvez mettre les deux doigts collés comme ça l'un à l'autre pour un geste de précision, un geste de rassemblement, quelque chose avec les paumes ouvertes. Donc les gestes parlent aussi pour vous. C'est dommage de les mettre
surtout
dans ses
pas
poches.
Dans les poches. Moi, je lui donne un petit conseil. Quand j'ai le trac à la télévision, bah, je serre très fort un stylo. On peut faire ça.
C'est ce qu'on appelle un objet transitionnel.
On a le droit.
C'est un peu dommage aussi parce que c'est un geste un peu limité. Non, mais je dis pas que c'est pas bien. Mais c'est un peu comme parfois quand on a un point de côté, on dit on prend une pierre et puis le point de côté part dans la pierre. C'est un peu pareil, c'est un objet traditionnel.
Allez, une petite dernière de Maman du 83 sur Twitter qui nous demande: j'aimerais préparer mes enfants à la prise de parole en public. Est-ce qu'il y a des exercices ou des jeux que l'on peut faire à la maison pour les habituer dès le plus jeune âge?
Oui, bien sûr. D'abord, débattre à table et libérer la parole. Et puis, par exemple, on est à la radio, faites-leur faire une petite chronique radio tous les jours.
Génial.
Avec une chronique juste. Je raconte quelque chose qui m'a marqué dans l'actualité, je l'analyse et je dis ce que j'en pense. Ça peut durer une minute pour un enfant, deux, trois s'ils sont plus à l'aise, mais juste ça, une chronique radio. Tu t'imagines à Europe 1, tu as une minute pour dire, voilà, dans l'actualité aujourd'hui, il y a eu ça, je raconte, ensuite je dis ce que j'en pense, et ben ça fait une petite chronique radio, et ça permet de familiariser les enfants.
C'est ce qu'ils ont fait avec moi et ça marche très bien.
Et voilà, 10 ans plus tard, il est toujours là.
Voilà.
Et mais merci beaucoup Bertrand Perrier d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos auditeurs ce matin. Merci pour tous vos conseils également pour aider ceux qui ont des difficultés à prendre la parole, même si on l'a compris, hein, c'est un art qui est à la portée de tous, si on s'y intéresse un peu. Merci encore à vous.
Merci beaucoup. Maintenant, Julien, on va changer de sujet et prendre soin de nous, enfin surtout de nos enfants, de nos adolescents, mais au naturel, grâce à l'aromathérapie. Comment bien manier les huiles essentielles, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
On va prendre soin de nous grâce aux innombrables ressources de la nature à présent. Alors pour en parler, elle est notre invitée ce matin. Bonjour docteur Françoise Couic-Marinier.
Bonjour Julia, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes docteur en pharmacie spécialisée dans les huiles essentielles. Vous êtes aussi l'autrice de Huiles essentielles pour les enfants et les adolescents aux éditions Solar. Alors moi je vous avoue que je pensais qu'il ne fallait pas utiliser les huiles essentielles pour les enfants, mais finalement si, d'après ce que vous dites.
Alors oui, non. C'est-à-dire que vous avez raison, lorsqu'on ne s'y connaît peut-être pas, c'est peut-être votre cas, il vaut mieux s'abstenir que de faire n'importe quoi. Mm-hmm. Parce qu'on peut avoir de graves soucis, ils vont bien après, mais ils peuvent être brûlés ou autres. Donc en l'absence de conseils, en l'absence de connaissances, il vaut mieux s'abstenir.
Justement, d'accord, quand même, puisqu'on va mettre tout de suite les risques sur la table, comme ça c'est fait. Quelles sont les huiles essentielles formellement interdites aux enfants? Est-ce qu'il y a un âge en particulier d'ailleurs? Et quels sont ces risques précisément? Vous avez dit brûlure, c'est pas rien quand même. Moi je préfère éviter d'en arriver là, même pour la brûlure, hein, si on peut éviter.
Effectivement, alors on sectionne, ça va être les huiles essentielles qu'on peut utiliser dès 3 mois, donc il y en a très 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 peu, à partir de 3 ans, à partir de 6 ans et 12 ans.
Donc ne faites rien, surtout si vous ne savez pas, ne faites rien.
Exactement.
Et demandez conseil à quelqu'un qui est spécialiste.
Voilà, idéalement un pro de santé qui va connaître aussi les antécédents de l'enfant, s'il a fait une crise d'épilepsie tout petit par exemple. Ça c'est important, mais dans le doute, s'abstenir. J'y reviens, mais c'est très important.
Mais alors, si j'ai bien entendu ce que vous dites, après 3 mois, enfin dès l'âge de 3 mois, on peut donner de l'aromathérapie aux enfants.
C'est ça, alors forcément dilué, hein, jamais d'huile essentielle pure à cet âge, mais on a des huiles essentielles d'ailleurs qui ont bénéficié d'études qui vont être très efficaces pour apaiser, pour faire dormir. On a différentes voies d'utilisation, on en parlera, mais effectivement, on peut commencer avec quelques huiles essentielles.
Des enfants asthmatiques, par exemple, parce que vous disiez c'est bien de demander à un professionnel, par exemple un pharmacien formé à l'aromathérapie. Si mon enfant est asthmatique, grosso modo, il n'y a pas grand-chose que je pourrais utiliser, non?
Exactement, et surtout en diffusion, c'est formellement interdit, surtout chez les tout-petits, sachant que dans l'asthme, on a 3 piliers, il y a l'infection, et là ça va arriver, hein, on commence à avoir aussi des bronchiolites en ce moment, l'allergie. Donc, on peut être allergique à tout. Et puis, le psychologique. Vous avez des enfants qui sont capables de se déclencher une crise d'asthme suite à un choc psychologique ou simplement une contrariété.
Mais les adultes aussi, non?
Bien sûr.
C'est valable pour
tous.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les huiles essentielles, si on peut les utiliser, et si oui, de quelle manière? Parce que ce n'est pas forcément des odeurs, hein, c'est ça à inhaler. Il y a d'autres façons de les utiliser.
Tout à fait. Alors, pour l'enfant, on ne fera jamais avaler avant au moins 6 ans et des huiles très douces. Donc, on va surtout utiliser très diluées en massage, dans une huile végétale notamment. fera attention aux huiles végétales qu'on utilise aussi. Pas de fruits à coque, donc notamment l'amande douce, qui peut provoquer des allergies ensuite, surtout avant la diversification alimentaire. Et puis, ça va être aussi en diffusion, en inhalation, ou par exemple, on peut prendre un petit bracelet où on a mis une goutte, donc il n'y a pas de contact avec le corps. L'enfant peut le sentir. Ça peut être aussi sur son doudou, ou encore mieux, sur son oreiller. On met deux gouttes, on retourne l'oreiller, du coup, il n'y a pas de contact avec la peau, et il aura un oreiller aromatique et odorant pour bien dormir.
Alors comme dans tout, dans l'aromathérapie, il peut y avoir des dérives. Je crois que l'endroit où on va aller acheter ces huiles essentielles est très important. Sur Internet, on peut trouver un peu tout et n'importe quoi. Donc de préférence, on s'en procure où, on demande renseignement où, comment on est sûr de tomber sur un bon professionnel.
Vu les âges qu'on évoque aujourd'hui, je vais être très restrictive. Idéalement, un professionnel de santé qui a déjà l'historique, soit le médecin, le pharmacien, et surtout quelqu'un qui s'y connaisse. Alors c'est assez simple, on peut par exemple poser une simple question, puisque c'est une huile essentielle utilisable chez l'enfant, c'est avez-vous de l'huile essentielle de lavande officinale ou lavande fine, ou de lavande plutôt. Si la personne ne répond pas et donne un flacon comme ça, il y en a 80 des lavandes, ça veut dire que la personne ne s'y connaît pas.
Ah, faut on a la demande... question piège, Gastrac, voilà. Vous. On pose ça, s'il nous dit oui, tenez, prenez la lavande, sans nous demander si c'est pour un enfant.
Exactement.
Donc celle-là, elle est dangereuse donc, pour les enfants.
Voilà, la lavande officinale est très douce, mais la lavande aspic, qui n'est pas du tout la même, qui contient du camphre, est dangereuse chez les tout-petits, voire même avant 6 ans. Donc justement, et puis on en a d'autres qui sont encore plus dangereuses. Donc si on n'a pas de réponse, c'est pareil pour les eucalyptus ou des huiles un peu clés. Comme ça, les eucalyptus, on en distille 17.
Et donc les jeunes, lui aussi, il a des questions pour les.
Je découvre un petit peu. Et justement, je suis sceptique quand j'entends que c'est dangereux pour les enfants et pour les adultes, aucun risque.
Si, jamais. Bien sûr.
Ah oui, d'accord.
C'est... Bien sûr, un épileptique, il faudra faire attention. Un asthmatique, on a évoqué les deux principaux risques. On a aussi la femme enceinte. Hein, il faut considérer qu'elle porte un petit être aussi en elle. La femme allaitante, ça c'est important aussi. Pour la femme enceinte, la femme allaitante, on est à peu près sur les mêmes huiles essentielles possibles que chez l'enfant.
Donc, d'accord. Qui dit naturel, dit pas non plus sans risque. Il faut faire les choses sérieusement et être bien accompagné.
Voir les bons professionnels et poser les c'est bonnes ça. Questions aux bonnes personnes.
Et qui dit efficace, dit effectivement toxicité et potentielle.
D'accord, on va faire attention. Heureusement que vous êtes là, docteur Quick Marinier. Vous ne bougez pas, on a encore pas mal de choses à dire, à conseiller à nos auditeurs pour bien manier les huiles essentielles avec nos enfants, nos ados, sans prendre de risques, évidemment. Alors, savez-vous, par exemple, que ce que l'on peut utiliser du côté des plantes pour soulager une bosse ou un bleu? Eh bien, notre invité nous répondra tout à l'heure. Je crois que vous avez également dans votre mallette des astuces essentielles contre l'un des fléaux de la rentrée, les poux.
Ah, super. Pour en savoir Moi, j'ai une plus. Affiche devant l'école, alors ça m'intéresse.
Alors, justement, pour en savoir plus, une seule chose à faire. Restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé. On le fait en tentant de mieux comprendre les bienfaits aujourd'hui de l'aromathérapie. C'est le docteur Françoise Quick-Marinier qui nous explique cela en détail ce matin. Vous êtes docteur en pharmacie, l'autrice du livre « Huiles essentielles pour les enfants et les adolescents » aux éditions Solar. Alors, les enfants, docteur, ça bouge, ça court et parfois donc ça se fait des bosses, des bleus. Qu'est-ce qu'on peut leur donner dans ce genre de situation, dans ce genre de douleur éventuellement?
On a une huile essentielle magique, c'est l'huile essentielle d'hélichrys de Corse, hélichrys italienne mais qui vient de Corse, ça, la qualité est importante.
Comment on l'écrit, hélichrys?
H-E-L-I-C-H-R-Y-S-E.
Très bien,
voilà, ça s'appelle l'immortel aussi.
Ah bah oui, voilà. Ça on retiendra peut-être plus facilement, ouais. L'immortel.
C'est utilisé en cosmétique, c'est connu comme ça.
Et donc comment on l'utilise sur une bosse, un bleu, enfin
Alors on va l'utiliser dilué dans une huile, une cire de jojoba par exemple, comme ça on est sûr qu'il n'y ait pas de coque. On va prendre une goutte dans le creux de la main, on va mettre 5-6 gouttes de jojoba et on va appliquer à l'endroit de la bosse le plus rapidement possible.
Si c'est près d'un œil, tout ça, on fait attention.
Alors,
quand même,
pour l'œil, on va utiliser dans ce cas-là, et ce sera plus simple pour les enfants, ce qu'on appelle l'hydrolat ou l'eau distillée. Puisqu'il existe toujours une eau distillée quand une huile essentielle est obtenue comme ça.
Donc c'est moins dosé, quoi, c'est ça?
Voilà, c'est aqueux, c'est moins dosé, ça peut aller dans l'œil si c'est un œil au beurre noir, par exemple, donc ça c'est simple. Et puis sinon, près de l'œil, ça ne piquera pas, malgré tout, mais il faut bien la diluer et on considère que c'est 50 fois plus efficace que l'arnica. Donc ça va faire dégonfler, débluir et ça va enlever la douleur.
L'immortel porte bien son nom. Alors on entre dans la saison des virus et des infections. Comment on peut soulager par exemple la gorge en cas d'angine ou la toux d'un enfant?
Alors la gorge, ce sera par exemple en massage puisqu'on ne va pas lui donner à avaler avant au moins 6 ans. Et puis surtout ça les traumatise. Moi j'avais donné ça à mon fils, il avait 2 ans et demi dans du miel, une huile essentielle de thym à tujanol. Et 2 ans et demi, il a 18 ans, il ne veut toujours pas que je lui donne du miel. Donc ça m'a vraiment traumatisé. Mais sinon, on va pouvoir masser justement sa gorge. gorge. Avec
son cou, hein, du coup.
Voilà,
c'est ça,
exactement.
Ouais.
Ici, la glotte, avec une goutte d'huile essentielle de thym à tujanol, mélangée, pareil, dans une huile végétale.
Tu
n'en as
rien, on prend de l'huile d'olive. Ça peut
faire
la peine,
bien sûr. Tout se mélange dans les huiles. Les huiles essentielles se mélangent toutes. Après, c'est une question d'odeur, de prix, et puis de coque, si vraiment ils sont tout petits. Et on va le masser 2-3 fois par jour. Et on peut mettre un foulard en soie, hein, qui va garder la chaleur, mais pas trop. Ça va réchauffer les cordes vocales pour avoir aussi une meilleure
éloquence. Super. Alors, dans votre livre, vous conseillez d'utiliser l'huile essentielle de girofle si un enfant a une carie. Moi, j'avoue, j'aurais plutôt tendance à l'amener chez le dentiste, mais je ne pense pas que vous disiez qu'il ne faut pas les amener chez le dentiste.
Au contraire.
Mais bon, en cas de carie, justement, comment on travaille avec cette huile? On brosse la dent avec? Qu'est-ce que ça va faire? En fait, ce n'est pas soigner la carie, il faut quand même aller chez le dentiste.
Ah, complètement. Jamais une huile essentielle ne dispense d'aller voir un médecin, un pharmacien pour justement une rage de dents. Alors, une carie, de toute façon, ce sera déterminé par le dentiste. Par contre, les dentistes utilisent le génol qui vient du clou de girofle, c'est naturel, pour anesthésier, mais c'est aussi un très grand antiseptique, antibiotique. Alors ça ne s'utilise pas pur, parce que ça peut justement brûler la muqueuse buccale. On va le diluer énormément dans un flacon de, tiens, par exemple, d'huile d'olive, on en parlait, de 50 ml. On va mettre 2 gouttes si c'est un enfant de moins de 6 ans, donc c'est très peu, de girofle. Et on peut badigeonner avec un coton-tige, par exemple, ou une petite compresse sur l'endroit de la carie pour anesthésier la douleur. Mmh.
Donc on apaise la douleur,
exactement.
On
ne
soigne pas la carie. Non. Ça, c'est le dentiste, et bien sûr. Ça, on n'y échappera pas.
Alors justement, puisqu'on parle de douleur et d'apaisement de douleur, si on a une otite, est-ce que vous avez un truc pour apaiser la douleur?
Même chez les petits, alors c'est souvent en complément, moi je le vois au comptoir, lorsqu'il va avoir une prescription d'antibiotiques auriculaires, donc c'est des petites gouttes à mettre dans l'oreille, l'enfant souvent se plaint d'une douleur. On le sait aussi, moi j'ai un souvenir pareil de mon fils en avion, quand vous avez un enfant qui hurle dans l'avion, c'est qu'il a un problème avec ses barorécepteurs, donc au niveau, il a mal aux oreilles en fait. Donc là on peut apaiser justement avec cette lavande fine ou officinale, derrière l'oreille. Il n'y a que le médecin qui peut faire mettre quelque chose dans l'oreille. Il faut que le tympan soit fermé. On va masser derrière l'oreille, doucement, avec cette lavande fine officinale de qualité, idéalement bio, pour éviter les soucis neuroendocriniens, etc. Et ça va calmer l'enfant et en plus, ça va l'aider à dormir.
Bon, bien sûr, tous les conseils qu'on vous donne là aujourd'hui, vous les retrouvez dans le livre du Dr Quick Marinier. Puis sinon, vous réécoutez évidemment cette émission en podcast. Vous aurez tous les détails. Alors, c'est la rentrée. Moi, je suis très intéressée par ça. Il y a une affiche, je le disais, déjà devant l'école maternelle. Les poux sont de retour comme chaque année. Vous avez des anti-poux naturels, je crois. De quoi s'agit-il et comment on les utilise?
Alors, en prévention, on peut très simplement, mais on va rester sur la même essentielle, c'est la lavande officinale chez les tout petits. Comme ça, on ne risque rien au niveau des contre-indications. On peut mettre 30 gouttes pour 100 ml de shampoing. Donc, ça s'émulsionne bien. On le mélange, on l'agite bien une fois.
Le shampoing classique, hein, celui qu'on a à la maison, on mélange
doux,
avec.
Voilà,
d'accord.
Un extra doux pour enfant si c'est un enfant, pour adulte si c'est un adulte, parce qu'il faut prévenir aussi pour les adultes.
Oui, on en attrape nous aussi, c'est vrai.
Oui, moi j'ai attrapé les poux parce que j'ai une maman enseignante qui en avait attrapé aussi. Donc voilà, j'étais obligée de couper
ça
mes
partage,
cheveux.
Ça se partage, c'est généreux les poux.
C'est très généreux, surtout quand c'est chaud.
C'est voilà. Ça.
Et donc ce shampoing peut être utilisé en prévention, même tous les jours, si les gens se lavent les cheveux tous les jours. C'est très apaisant et surtout ça va repousser par l'odeur. Ensuite, si c'est du curatif, l'idéal c'est de faire glisser le poux pour ne pas qu'il s'accroche. Donc on peut prendre, parce que ça sent bon, par exemple de l'huile de coco ou mieux du monoï, parce que ça sent bon. Et on peut rajouter de l'huile essentielle de lavande officinale, encore une fois, dedans. Hein, donc, on peut faire le même mélange, 30 gouttes pour à peu près, pour le coup, 50 ml de monoï. Ou on peut rajouter aussi pour les plus grands, pour les plus de 6 ans, de l'arbre à thé. Bon. De l'huile essentielle
d'arbre à thé. Vous n'échapperez pas au peigne à poux, hein, de toute façon.
Non, ah, bien sûr.
On va passer à un sujet qui, moi, maintenant, m'intéresse beaucoup. Mélanie, c'était les poux, moi, c'est les ados. C'est justement l'apparition de l'acné, les boutons. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça avec les huiles essentielles? Et surtout, est-ce qu'on les traite comme des adultes ou comme des enfants, les ados?
Là, on peut les traiter comme des adultes. Hein, comme
il a 15 ans, le fils de Julien.
Voilà. Comme la thérapeutique classique, c'est l'adulte, c'est 12 ou 15 ans. Donc, ça, c'est la médecine allopathique. Donc, on peut les traiter comme des adultes. C'est la plus connue, la star, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. On y revient. Le tea tree, le fameux. Alors, le problème,
c'est que la donne... T-E-A et tree comme un arbre en anglais. T-R-E-E, hein, c'est ça.
C'est ça, parce que ça vient d'Australie. Donc, c'est d'où le nom. Et ça a été confondu avec un arbre, un théier, en fait. D'où ce nom. Absolument inapproprié. Alors, ce n'est pas très aphrodisiaque comme odeur, mais c'est très efficace. Donc, si vraiment il y a des spots qui commencent à être purulents ou quoi.
Vous n'aurez pas de belle fille tout de suite, mais il n'aura plus de boutons.
Oh, c'est pas vrai.
Voilà. C'est ça.
Si on contrôle les appareils dentaires, vous avez des trucs.
Non. Donc, on peut mettre directement pur, là, pour le coup, vu l'âge
sur
qu'ils
ont.
Sur les
boutons, hein, directement.
Voilà. Ouais. Ça peut être dans la salle de bain, hop, hop, hop. Et le plus simple, c'est que souvent, ils ont un gel moussant pour bien désincruster. Donc, on va mettre dans la dose de gel moussant la goutte de titri. Ils l'émulsionnent. Ils se mettent
sur le visage.
Voilà, ils rincent. Et surtout, ben, l'odeur ne persiste pas. Donc, en général, ils aiment
ça. Ça sent aussi mauvais que ça.
Moi, je n'aime pas. Certains peuvent aimer, mais ce n'est pas la plus aphrodisiaque qui soit.
À tester, en tout cas. Justement, on parlait des boutons, mais ça, et puis tous les changements qu'on peut avoir à l'adolescence, ça peut être une période compliquée psychologiquement pour les ados. Est-ce qu'il y a des choses du côté de l'aromathérapie, justement, pour apaiser un peu un adolescent qui serait un peu tourmenté, un peu en difficulté, stressé? Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors, on a déjà, et ça, je trouve très bien, ils ont parlé effectivement du suivi psychologique. Je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible. Il ne faut pas avoir peur de passer la porte d'un psychologue ou plus. Ça, c'est très important. Et puis, alors, on a, je vais vous faire plaisir, mesdames, on a une huile essentielle qu'on appelle, pour s'en rappeler, l'essentiel de la gentillesse.
Ah, on va les badigeonner.
C'est ça. C'est la marjolaine à coquille.
La marjolaine à coquille. À coquille. Marjolaine à coquille.
Et pourquoi voilà, ça s'appelle comme ça?
Alors, c'est parce que les inflorescences et les fruits sont en forme de coquille.
Ça, non, ça c'était fait plutôt petites, pourquoi la gentillesse?
Ah, parce qu'ils deviennent très gentils.
Donc,
plutôt que d'être
très, très fortement
rebelles.
Dans les chambres d'adolescents. Hein.
Voilà. C'est vrai?
Oui, j'ai même une amie qui a essayé, parce que sa fille était absolument rebelle, voilà, 15-16 ans. Elle arrivait, elle claquait la porte. Donc, elle prenait son diffuseur, elle diffusait sous la porte de sa fille. Et la fille revenait.
Marjolaine à coquille. Donc,
mais c'était extraordinaire.
Et elle lui mettait la table, elle lui faisait un câlin. Donc, c'est assez bizarre.
C'est magique.
C'est génial. Docteur, on va terminer avec une question d'une maman comme nous. C'est Eva, toujours sur Instagram. Elle dit, mon fils de 9 ans manque de concentration à l'école. Est-ce que vous avez des solutions avec des plantes et comment les utiliser?
Elles viennent de l'Antiquité, ces solutions. Et maintenant, on a les études qui ont montré que cette usage traditionnelle était efficace. Alors, on va en garder une. C'est, là aussi, c'est très précis. C'est le romarin à 1,8 cinéole. Hein, parce qu'il y en a plein d'autres, des romarins. Ce romarin à 1,8 cinéole augmenterait la mémoire mathématique. Donc, c'est très précis de 70%.
Je viens note, hein, mais ça, je note vraiment. Ouais. Mais évidemment.
C'est
hyper efficace. Marjolaine à...
Là, c'est le romarin à cinéole.
Oui, je suis restée sur la marjolaine à coquille. Moi, je veux des enfants gentils, c'est ça.
Moi, je veux qu'ils soient bons en maths.
Allez, c'est bon.
Et ça marche. Eh ben,
oui.
Je vous remercie,
ah oui, ça
docteur.
Marche. Ça a été testé, des vraies études chez les étudiants en mathématiques.
Ah, bon, génial. Parfait. Merci beaucoup, docteur Quick-Marinier, d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces astuces, ces conseils pour bien utiliser les ressources de l'aromathérapie chez les plus jeunes. On a bien noté les précautions à prendre chez les plus jeunes, les plus petits. Là, pour le coup, c'est très important. Et puis, n'hésitez pas, surtout, il y a votre livre pour les enfants et les adolescents chez Solar Édition. Merci.
Oui, merci docteur Mélanie. À présent, on va passer à notre séquence tendance avec nos trois chroniqueurs. Alors d'abord, pour la gastronomie, enfin pour la sucrerie surtout ce midi, le chef Abdel Alaoui sera avec nous. Il va nous donner ses meilleurs conseils pour faire des cookies délicieux et inratables. Ça, c'est promis. Et puis, le docteur Aurène Marco va nous décrypter aujourd'hui une tendance qui a le vent en poupe, se débarrasser de ses boules de bichat. C'est une chronique beauté, hein. Je vous rassure, rien de sexuel, pas d'inquiétude. Et enfin, on va se mettre à la course à pied avec notre coach Jean-Marc Delorme. Et oui Mélanie, oh, c'est dommage, on a oublié nos baskets.
Oh, dommage,
oh,
dommage.
Bah, c'est pas grave, on sera obligé d'écouter ses conseils, on mange des cookies. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Voici le programme d'Europe Midi. On va parler des amendes forfaitaires testées à partir d'aujourd'hui dans 6 départements. Des amendes pour lutter contre les occupations illégales de halls d'immeubles. En clair, les trafiquants de drogue qui pourrissent la vie des habitants. Mais aussi ces amendes contre les occupations illégales de terrain. On verra ce que ça va changer. On sera avec le procureur de Rennes qui sera en direct avec nous. Le petit déjeuner de l'unité au siège des Républicains ce matin. Tous les candidats à l'investiture se sont retrouvés ce matin rue de Vaugirard. On verra ce qu'il en est ressorti avec Alexandre Chauveau. La grande distribution, elle réagit avant le gouvernement pour aider les Français à faire face aux augmentations de prix des carburants. On verra toutes les initiatives prises dans les hyper et les supermarchés avec Emmanuel Dutheil. La taxe foncière, elle a augmenté, accrochez-vous, de 28% en 10 ans. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est encore intéressant, tiens, d'acheter un studio ou un deux pièces à louer pour sa retraite? Je poserai ces questions aux responsables de cette enquête de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Et puis, après le Tour de France ou le sapin de Noël, c'est un autre monument qui est attaqué. On parlera des Miss France attaquées en justice par une association féministe. Elle juge le concours sexiste. Je sais que ça vous fait déjà réagir. Soyez là à midi et demi pour Europe Midi. À tout à l'heure.
Europe 1. Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure.
Retour dans Bienfait pour vous avec Cyclamed, qui collecte en pharmacie vos médicaments non utilisés ou périmés.
Europe 1,
11h30,
Bienfait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on partage chaque jour avec vous nos bons plans, toutes ces tendances qu'on va dénicher un peu partout et dont on vous fait profiter. Mais dans Bienfait pour vous, notre credo, c'est surtout de se faire du bien, de vous faire du bien. Et de vous qu'à midi tous les jours, c'est d'abord la gastronomie qu'on met en avant. Et aujourd'hui, c'est encore vous, Abdel Alaoui, qui passez le tablier. On va faire des cookies, c'est bien ça ?
On va faire des cookies, on va parler des dos, ce cookie cru qu'on appelle le doubt. Et bon. Des cookies hyper fondants. Je vais tout dire sur le cookie.
Ça promet. Moi, je les aime comme ça, ouais, un peu croustillant dehors et tout mou dedans. J'ai hâte de goûter les vôtres. Je les vois déjà. Ils ont l'air délicieux. Alors, ce sera ensuite à votre tour, Docteur Oren Marco. On va parler alors des boules de bicha. C'est quoi ce truc-là ? On a cru que c'était un truc sexuel au départ avec Julia, mais non.
Bicha, mais c'est des petites boules de graisse qu'on a dans les joues.
J'en ai moi là. Vous en voyez ? Non.
On en a tous.
Ah, d'accord.
Et il y a une petite tendance, effectivement, à les retirer.
On va décrypter tout ça.
On va décrypter tout ça.
Et puis, on va terminer cette séquence tendance avec notre coach sportif préféré, c'est Jean-Marc Delorme. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Alors vous avez décidé de nous convertir tous à la course à pied, c'est bien ça ?
On y va mollo quand même. Je vais vous convertir tous à la course à pied.
Ça va être dur,
un sport
je vous le
formidable,
dis.
Mais j'en suis sûr. Je suis sûr que je vais y arriver.
On a fait combien de pas ce matin, Mélanie ? 20 au moins.
J'en fais 10 000 tous les jours, mais je cours pas, je marche.
Bon, bah merci Jean-Marc, ça sera à vous dans quelques minutes. Mais avant de chausser les baskets, on va passer en cuisine dans Bienfait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Alors on commence donc, comme tous les jours à midi, par la chronique gastronomie de ce magazine. Bon, Abdel Alaoui, vous êtes venu avec du matériel comme d'habitude. Je vois déjà de loin quelques cookies qui me font de l'œil.
Hier, il avait du chou. Aujourd'hui, il a voulu nous séduire encore plus.
Oui, avec chou, j'ai obligé d'attaquer avec un truc un peu sexy quand même.
Ouais, c'est ça,
un peu
cookies.
Sucré. Alors pour la chronique d'aujourd'hui, je conseille aux parents d'éloigner les enfants de la radio.
Ah bon ?
Alors je vous laisse deux secondes, le temps d'éloigner tout le monde.
Ça y est, ils sont partis.
Voilà. En fait, c'est vrai.
Ils sont à l'école.
Ouais, le problème avec le thème d'aujourd'hui, c'est que c'est une recette maudite. C'est trop bon. Les enfants, ils vont vous en demander tout le temps et vous allez devoir les préparer, évidemment. On va parler, évidemment,
cookie.
Non, je fais ça parce que ma mère, elle disait un truc très juste.
Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé de sa mère.
Le cookie, c'est comme la semoule, c'est comme le couscous. Quand t'as commencé une fois, tu t'arrêtes plus. Et elle avait raison.
De quoi ?
Alors, avant de parler cookie, est-ce que vous connaissez l'origine du cookie ? L'histoire du cookie ?
Pas du tout.
Alors, je vous raconte l'histoire. Alors, en fait, c'est une simple tablette de chocolat qu'on connaît tous, la tablette Nestlé, qui a changé la vie d'un couple d'aubergistes, Ruth et Kenneth Wackelfied. À la fin des années 30, à Whitman, dans le Massachusetts, ces deux Américains tiennent le Toll House Inn, un établissement aménagé dans un ex-relais de diligence connu pour son décor colonial et sa carte très classique. Alors, petit couvert en argent, serveur beau gosse en smoking, dans le relais, tout est clean et orchestré pour un service irréprochable. Et comme Ruth avait l'habitude de servir des sablés avec du chocolat en poudre, un jour elle n'en avait plus, du coup elle a pris cette fameuse tablette de chocolat Nestlé qu'elle a coupée comme ça en petits morceaux, en petits carrés, et elle a rajouté ça dans sa pâte, pensant que le chocolat allait fondre.
Mais non.
Et en fait, pas du tout, il est resté comme ça, intact, carré, avec, mais légèrement fondu quand même, et le cookie est né. Les gens venaient de partout pour goûter ce cookie au chocolat.
Mais quelle belle histoire.
Voilà.
On dirait la naissance d'un enfant. C'est magnifique.
C'est un truc que j'ai trouvé sur internet, mais je raconte tout simplement. Alors attendez, est-ce que vous êtes plutôt cookie croustillant, fondant ou cru?
Un mélange entre les deux premiers. Il faut qu'il soit croustillant dehors et un peu cru dedans. Moi, j'adore cru.
Cru, c'est bon.
On
a tous mis les doigts comme ça dans le saladier avec la partie pas de cru, on a goûté.
Non, moi j'ai peur des œufs crus toujours. Enfin, c'est parce que je suis journaliste santé, alors je me méfie des risques.
Alors justement, vous allez voir qu'aux États-Unis, alors c'est une tendance qui est née en 2019. De la pâte crue qu'on appelle le dough, prononcé le doubt, qui veut dire pâte en anglais.
C'est un peu anglais en fait, Abdel Alaoui.
Je respecte very well.
Ça s'entend.
Alors on peut la mettre dans la glace, cette pâte crue, on peut la mettre dans un milkshake, sur une tarte.
C'est délicieux. Il y a un truc à Paris hein, qui s'appelle Cupkey.
Alors vous allez voir, ils mettent pas d'œufs, parce qu'au départ on l'a fait avec des œufs et forcément ça reste quand même assez dangereux, parce que les œufs crus c'est pas très bon pour la santé. Donc c'est un peu la tendance porn food, ce dessert qui nécessite aucune cuisson, c'est là aussi l'avantage.
Ça m'étonne de vous, Oren Marco, pour une fois il hoche la tête comme ça, vous êtes porn food.
J'avoue que j'adore quand même les cookies, la pâte crue, c'est délicieux.
C'est hyper bon, dans la glace là, on va pas donner la marque, mais c'est hyper bon.
C'est bien.
Et qui paraît-il ne fait pas grossir. Alors ça envahit les réseaux.
On va s'arrêter là.
Alors ça envahit les réseaux sociaux. Tous les TikTokers s'y mettent. Ils préparent cette pâte crue, mais également les cartes des grands chefs américains. Des magasins spécialisés ont même ouvert leurs portes à New York, faisant de cette pâte crue la star de leur boutique. Et surtout, bah voilà, comme je disais au départ, on plonge nos mains dans cette pâte crue et c'est tellement bon. Alors je vous donne une petite recette
On veut la recette.
Ça, c'est, on fait le cookie cru.
La cookie crue.
C'est dur à dire. Ouais. Alors comment on fait pour faire ce cookie cru?
Alors on met pas deux, hein, ok? Et on va mettre une farine alimentaire. Donc on va mettre 140 g de farine d'amande, 80 g de sirop d'érable, ça remplace le sucre, une cuillère à café d'extrait de vanille, une pincée de sel, 50 g de pépites de chocolat, des petites noisettes comme ça grillées, torréfiées, des noix de pécan.
Et du beurre, non, à un moment donné.
Et un tout petit peu de beurre, 50 g à peu près de beurre.
Ça va, parce qu'on met 150 g quand je fais des cookies. Ouais,
quand on les cuit, un peu de pois chiche. On mélange tout ça, on boule. On peut après les paner avec du coco râpé, des amandes un peu comme ça grillées, torréfiées. Et c'est assez ludique, c'est assez joli.
Et pas de four.
Pas de four.
C'est pour
pas
ça qu'il y a moins de beurre alors.
Il y a moins de beurre, il y a une farine alimentaire qu'on peut manger crue, comme ça, comme la farine d'amande.
Aurène, il a tout noté, je vois.
Je note tout, j'ai toujours raté mes recettes.
Et c'est vraiment facile à faire.
Alors, c'est un ratable, ça, on ne peut pas rater
un ratable.
Ça.
Non, mais vraiment un ratable. On choisit la taille qu'on veut, c'est impossible de rater ça.
Il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de.
Mais non, mais là, il n'y a pas de cuisson, donc c'est
la cuisson que vous ratez, non, Aurène? Mais oui, mais là, il n'y a pas besoin de cuire.
Je fais une pizza de cookies, je ne sais pas.
Après, on démoule comme ça avec des petits moules. Alors, il y a deux adresses à Paris qui sont hyper bonnes. Il y a la Fabrique à Cookies, ils ont 13 boutiques en France.
Ah oui. Oui, c'est ça, c'est pas qu'à Paris. Il y en a pour la province aussi, toujours, il ne faut pas les oublier.
Et l'avantage de ce cookie, c'est qu'il est effectivement, Mélanie, un peu fondant au milieu, croustillant autour. Ils ont au chocolat blanc, au chocolat noir, avec des noix de pécan, avec des noisettes, c'est hyper bon, hyper sexy.
On va goûter quelque chose ou...
Oui, et, ouais, bien ça sûr. Arrive.
Non, vous allez voir.
Allez, tenez,
d'ailleurs, je peux faire
ça. C'est la boîte.
Ça, c'est la Fabrique à Cookies. Vous allez voir. En plus, les boîtes, elles sont assez jolies.
Pour savoir si je l'aime, je touche d'abord s'il a l'air un peu mou. Ah ouais, mais ils sont tous un peu mou.
Et c'est quoi les autres là?
Alors, les autres, vous allez voir, ça s'appelle Cookie Diction.
Oh là là, ça c'est rose.
C'est une fille qui s'appelle Charlotte Zetoun. Elle s'est lancée un peu dans la conquête du cookie pendant le confinement. Et ça a tellement bien marché qu'elle a ouvert sa boutique. On peut aussi acheter.
J'en prends deux ou trois et je vous les fais passer.
En ligne.
Est-ce que vous avez des cookies crus à nous faire goûter?
Qui crue. Ouais, j'ai pas.
Mais ceux-là, ils ont l'air très bons aussi.
J'avais
hein.
peur qu'ils prennent la température, qu'ils s'aplatissent comme ça, qu'ils s'affaissent. Mais j'essaie.
Il n'y a pas
Cookie
chocolat
Diction.
Blanc.
Et je crois qu'il y a des livres aussi que vous voulez nous présenter.
Là, regardez, il y en a au beurre de cacahuète de chez Cookie Diction. Là. C'est une tuerie, ça. C'est vraiment bon. C'est très, très bon même.
C'est quoi ces livres-là?
Alors, deux livres. Alors, on connaît tous Michel et Augustin.
Ah, on adore. Hein,
on adore. Donc, ils ont fait un petit livre qui s'appelle L'Express. Devenez l'expert du cookie avec plein de cookies dedans.
En couverture, ils sont beaux. Hein.
Ils ont des cookies salés, des petits cookies crus. D'ailleurs, une recette de cookies crus. Ils ont des cookies à la patate douce, au thym, au chocolat blanc. Enfin, voilà, plusieurs cookies.
Au pois chiche aussi, il y en a.
Mais je crois que
le pois chiche, en fait, ça va être le fil conducteur de toute l'année. Tenez, les garçons, si vous voulez faire des cookies chez vous. Et il y en a un deuxième, c'est Sarah Grossetti qui pareil a fait des cookies à croquer. C'est un peu la star des petits gâteaux, elle. Et ce qui est bien, ce livre, c'est elle-même qui a fait ses photos. Et c'est pareil, c'est
mais
toujours
Adèle,
bon.
Mais Adèle, vous venez, revenez tous les jours, parce que c'est tellement bon. Ouais, là, je viens d'avaler une petite
celui-là,
bouchée.
Celui-là de la boîte, c'est quoi déjà, là, la boîte en
ça,
fer
c'est,
mais
ça, c'est délicieux.
Et vous savez, c'est un petit peu de sel. C'est ce fameux exhausteur
de goût qui
relève le goût du sucre. Je crois que c'est le meilleur cookie que j'ai jamais mangé. Moi,
j'ai une petite astuce. Mettez un peu de poivre dans le cookie. Pareil, c'est un exhausteur de goût et ça relève.
Avant ou après le pois chiche?
Dans la pâte.
Allez, merci beaucoup.
Comme disait ma mère,
j'ai quelques un peu de beurre de cacahuète dans la bouche, mais on va essayer. Merci Adèle pour ses explications, pour ses conseils. Et là, hey, Julia, mais elle me pique mon cookie. Non, mais sérieux, rendez-moi ça. Adèle, c'est bien, on va y arriver. Je pense que même Julia est capable de faire la recette de cookie cru. C'était pas compliqué. C'est à la portée de tous. Bon, cette séquence tendance revient très vite. Alors restez avec nous. De la beauté, du sport à venir. Le docteur Aurène Marco va nous débarrasser en un coup de bistouri de nos boules de bichat. Et puis on va faire un peu de course à pied aussi avec le coach Jean-Marc Delorme.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit. Nos trois chroniqueurs n'ont pas fini, n'ont pas bougé dans ce studio. Ils sont toujours avec nous. Alors on a
vous
presque
avez encore des cookies dans
oui,
la bouche.
On a presque fini tous les cookies autour de la table et maintenant on va s'intéresser à nos boules de bichat. Et pour cela, je me tourne vers vous, docteur Aurène Marco. Alors redites-nous tout sur ces boules de bichat. C'est quoi,
Julia et Mélanie? Vous avez déjà pris un selfie un peu comme ça en vous creusant les joues, en faisant un petit peu la moue. Tu fais ça
bouche de canard un peu.
Un
là.
Peu bouche de canard.
On
serre un peu les joues. Et ben, savez-vous qu'il y a maintenant une intervention chirurgicale qui permet de devenir comme ça, mais de manière définitive.
Ça fait un peu peur, moi,
ça
j'avoue.
Ça fait un peu peur. Ouais. Les boules de bichat, en fait, sont des boules de graisse qui sont situées à l'intérieur des joues, qui sont physiologiques, qui ne servent pas à grand-chose
quand on est jeune, elles sont en regard des incisives et des prémolaires, et des fois elles s'étendent même, c'est ce qui permet un peu d'avoir la base du visage, ça s'étend même jusqu'à la tempe, ça redescend un petit peu plus bas.
Alors, mais on a tous des boules de bichat ?
On a tous des boules de
bichat. Les hommes aussi ?
Les hommes aussi, mais elles sont d'une taille plus ou moins importante.
D'accord.
Elles ont été étudiées parce que anatomiquement, c'est vrai que lors des reconstructions du visage, lors de cancers, etc., on utilisait pas mal ce réserve graisseuse, ou en tout cas cette région anatomique
pour recombler des zones où il y en avait besoin. D'accord.
Et on s'est aperçu effectivement, au fur et à mesure, enfin surtout en Colombie, parce que c'est les précurseurs de cette technique, qu'en retirant les boules de bichat, eh bien, et aussi les stomatologues et dentistes le faisaient aussi quand ils opéraient des dents, que ça creusait un petit peu les joues.
Mais c'est vraiment visible, enfin, ça creuse vraiment. Les mauvaises idées, je trouve, les tendances qui dérivent un peu en esthétique, elles viennent souvent d'Amérique latine, hein, j'ai l'impression.
Elles peuvent venir d'un peu partout, mais effectivement, c'est vrai que ça commence souvent la dérive là-bas.
Et ça affine vraiment le visage?
Ça affine vraiment le visage. Alors, quand on est complexé et qu'on a des joues vraiment trop grosses, malgré le régime, la diète, et qu'on est fin et qu'on a quand même des joues qui sont imposantes, on peut se poser la question éventuellement au moins d'aller consulter, faire une IRM, regarder la taille de vos boules et puis diminuer partiellement.
Quand il y a un vrai complexe, qu'un médecin confirme que c'est faisable et que c'est entendable, surtout.
Exactement.
Parce que si c'est n'importe quoi.
Maintenant, là, le problème qui se passe, c'est qu'il y a un effet de mode lié, je pense, en tout cas, aux filtres, aux réseaux sociaux. Et cette tendance de vouloir absolument se creuser les joues comme si on était tous top modèle ou mannequin.
C'est très joli, les joues un peu rebondies, moi, je trouve. Regardez Abdel comme il est. Mais ce qui est dingue, docteur, c'est qu'il y en a qui veulent se faire creuser les joues et puis il y en a d'autres qui vont vouloir mettre de l'acide hyaluronique pour avoir des grosses joues.
Exactement. Alors, quel est le problème avec cette intervention? C'est que c'est une intervention définitive. Ouais. Et donc, quand vous retirez les boules de bichat, alors c'est peut-être très joli à 20-30 ans.
Vous la faites où, l'incision?
L'incision, elle est à l'intérieur de la bouche. D'accord. Il n'y a pas de cicatrice du tout. C'est une intervention qui est rapide, sous anesthésie locale en général, et qui vous avez le résultat en quelques jours. Donc, c'est quand même quelque chose de très simple. Et justement, c'est trop simple. Et ce n'est pas parce que c'est simple comme ça que ça ne demande pas réflexion, parce que c'est définitif.
Il y a des stars qui l'ont fait, qu'on connaît.
Oui. Il y a beaucoup.
Il y a Bella Hadid, je crois.
Par exemple.
Elle est belle d'ailleurs.
Qui, effectivement, a beaucoup changé la morphologie de son visage. Alors, c'est plus la même, effectivement. On peut
la
trouver
belle
très
avant, belle. Moi je trouve aussi, donc il n'y a pas besoin.
Le problème, c'est qu'on vieillit, non?
Le problème, c'est qu'on vieillit, exactement. Et que, en fait, le support graisseux, vous savez, quand les gens viennent nous consulter, ils ont perdu du volume. Avec l'âge, on perd du volume.
Tout
et
monde.
Là, si vous, à 20, 25 ans, 30 ans, vous décidez vous-même de vous retirer de la graisse du visage.
À 60 ans, vous avez une tête de squelette.
Je dirais même à 45.
On peut réinjecter.
Donc, en conclusion, Red Marco, vous n'êtes pas hyper pour cette tendance. On la décrypte parce que nous, on s'intéresse à toutes les tendances,
parce que
mais
il y a
vous êtes
une forte
pour.
Demande, ouais. Mais je trouve que c'est quelque chose qui doit être vraiment, vraiment réfléchi et fait avec parcimonie chez des praticiens qui retirent pas la totalité des boules de bichat. En tout cas, ça c'est vraiment ce qu'il faut retirer.
Vous en faites quoi, vos boules de bichat?
Vous en faites quoi, des boules que vous retirez? On peut pas les...
Non.
Julien, enchaînez, c'est bon, ça va pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Aurèle. Alors, comme ça, les boules de bichat n'ont plus de secret pour nous. À présent, c'est la course à pied qui va ne plus avoir de secret pour nous dans quelques instants, grâce à vous. Jean-Marc Delain, parce qu'Aurèle Marco, lui, il fait aussi du sport, il fait pas mal de course à pied. Je crois que je vous vois sur les réseaux sociaux en train de courir, mais là, on va pas courir, on va marcher, c'est ça, Jean-Marc?
Ah non, on va courir.
On va courir.
Ah oui.
Course à pied, ouais, il y a course dedans,
il y a
effectivement.
Course, c'est ça.
Donc, qu'est-ce qu'on
fait? Donc, la course à pied, c'est quand même le sport le plus ancien pratiqué par l'homme, d'accord? Et si vous avez encore des doutes sur les bienfaits de cette discipline, je vous engage à regarder un petit documentaire qui est présent sur toutes les plateformes vidéo sympathiques, qui s'appelle « Sommes-nous faits pour courir ?» Et on verra que depuis toujours, l'homme court, c'est ce qui a permis à l'homme de pouvoir chasser.
Depuis la nuit des temps, mais pourquoi ça explose particulièrement en ce moment, la course à pied?
Alors, pourquoi ça explose? Déjà, c'est assez facile à orchestrer.
Ça coûte pas cher.
Alors, on peut commencer pas cher, en tout cas.
D'accord.
Donc, textile, un short, un t-shirt,
basket,
et puis on est parti, puis on peut faire ça à peu près partout.
Et tout seul, en plus, pas besoin de partenaire.
Et tout seul, et ça, c'est quand même pas mal.
Oui, hein, quand on a envie d'un peu de solitude.
Comment on commence la course à pied sans se blesser quand on est débutant, comme moi?
Alors, on va commencer avec des chaussures adéquates. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, évidemment. Il faut qu'on soit déjà confortable dans ses chaussures.
Il faut qu'il y ait un petit peu de semelle.
Quand on est grand débutant,
moi, je courais avec
d'amorti.
Des chaussures plates, des baskets de ville à une époque, c'est une catastrophe.
Vrai,
ça.
Ouais. Donc ça, il faut vraiment faire attention au matériel. Les vêtements, choisissez des vêtements sympas, prenez pas les trucs tout pourris que vous avez au fond du placard pour faire du sport. Mettez-vous en valeur.
Ah, est-ce qu'on a le droit de...
Il faut se faire beau.
Ouais, parce que ça, c'est c'est quand même vachement plus sympa de faire une pratique.
Même si vous courez juste un tour, au moins on vous a remarqué. Quoi.
Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique pour passer le temps?
Alors, c'est même, ça peut être conseillé, hein, si vous prenez un ami, de la musique, etc. Par contre, faites attention parce que maintenant...
Un ami qui chante, de préférence.
Par exemple. Alors, en revanche, la musique, il faut faire attention parce que ça peut fausser la foulée.
C'est-à-dire
ouais. Ah oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas... vous allez suivre plus ou moins les rythmes que vous allez écouter. Donc, du coup, vous risquez de vous épuiser au début. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Et en plus, sur les compétitions, maintenant, en route, c'est interdit. C'est du dopage.
D'accord. Ah, c'est du dopage.
Ah, c'est du dopage, carrément.
C'est
entre elles, mais en course à pied sur route. C'est devenu du dopage.
Alors, bon. Ça y est, on est décidé avec Mélanie, on veut courir. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner?
Moi, je chante et Julia court.
Et à quel rythme? À quel rythme, surtout?
Alors, déjà, il faut juste un petit point. C'est 600 kilocalories par footing par heure. Donc, c'est calories par heure. Donc, c'est quand même pas mal. Hein.
Oui.
En plus, c'est très addictif. Donc on a envie d'y retourner et c'est quand même chouette d'avoir une activité sur laquelle on a envie de retourner.
D'ailleurs,
on
s'entretient et on est pas tout seul. Au bout de combien de fois ça devient addictif? Parce que j'ai l'impression que je cours et ça revient pas. Quoi.
Ouais, au bout de 2-3 mois, on commence vraiment à avoir envie de courir.
C'est 2-3 mois.
2-3 mois quand même. Donc c'est voilà.
2-3 fois, ça suffit pas. Ouais,
donc on commence au départ, il faut être évidemment progressif. Hein, c'est un sport d'impact. 2 fois par semaine, c'est pas mal. Au départ, on peut tout à fait commencer par faire 2 tiers de marche et puis 1/3 de course à pied. Puis
Moi, j'ai toujours fait ça de toute façon. Hein.
Voilà.
Je cours, hein, je pars à fond et puis en fait, je finis les 3 quarts en marchant.
C'est pas parce que vous tenez pas 20 minutes, une demi-heure que.
L'important, c'est de vous bouger, honnêtement. Même si vous marchez plus, au final, c'est déjà pas mal.
Et qu'est-ce qu'on fait de ses bras? Parce que moi,
alors, on utilise les bras avec le mouvement des jambes. Parce qu'il y en a plein qui courent un petit peu les bras ballants, donc ça va aider. On appelle ça le contralatéral. On engage le bras opposé à la jambe en action.
D'accord. Hein,
okay. D'accord.
Et avec ces talons, il faut les monter jusqu'aux fesses, non?
Non. Ah non, là, vous êtes épuisé. Ah, il faut être assez économique en course à pied. En revanche, alors, 85% des gens courent.
J'aimerais
avec
bien vous voir courir, Julien.
Ah, moi, je crois que je cours très mal.
Avec les talons qui touchent les fesses à chaque foulée, ça doit être quelque chose.
Avec un appel talon, en revanche, on va essayer le plus possible de courir au moins à plat. Pas comme les Kenyans sur l'avant-pied, mais au moins à plat pour éviter de taper trop sur le talon et qu'il y ait des répercussions sur les genoux. Et sur le bas du dos.
Et donc, au bout de quelques mois, Julia, là, en talon-pied, talon-fesse, elle va pouvoir faire des courses, je veux dire.
En talon-fesse, non, mais avec de la pratique. Et puis,
au bout de combien de temps on peut imaginer faire sa première course?
Alors, en fonction, sur un 10 km, on peut quelques mois, hein, ça va assez vite. Et on recommande pour un marathon, vous savez qu'il y a le marathon qui a eu lieu là, dimanche dernier, c'est à peu près 18 mois si on n'a jamais couru, c'est ce qu'on dit.
18 mois de prépa et on peut faire un marathon.
Et on fait un marathon, tout le monde peut faire un marathon, à peu près tout le monde.
Vous savez que Jean-Marc Delorme, il entraîne des marathoniens, il entraîne des gens qui veulent faire leur premier marathon. Eh bien, je vous propose, on prend date et on fait le prochain marathon.
Moi non plus.
Tout à fait, je vais entraîner au Rennes.
Moi non, ça va, j'ai fait une course dans ma vie, c'était 6 km. Je suis arrivée au bout, déjà j'étais contente.
Il y a des formats comme ça, puis maintenant allez-y, parce qu'il y a en plus des courses pour soutenir des bonnes causes. Là on a Octobre Rose en ce moment.
Donc
faites des courses comme ça, ça sert à tout le monde, c'est bien pour votre santé, c'est bien pour la santé des autres. Donc allez-y, franchement.
Et surtout il y a des applis pour ça qui sont magiques.
Ah oui, vous avez plein de choses, vous avez des montres connectées, vous avez des applications.
Genre le mec,
il a donc les bonnes baskets. Ne vous en privez pas, franchement c'est un bon sport et c'est bon pour le dos, contrairement à ce que beaucoup disent.
C'est bon
donc,
pour le dos de bouger, on commence à comprendre. Et si on doit courir, est-ce qu'on peut commencer sur un tapis? Il faut forcément aller dehors.
Ouais, alors le tapis, je ne suis pas trop pour. Pourquoi? Parce que y a une espèce d'effet vers l'arrière et en fait, ça fait une petite torsion au niveau du bassin et on peut avoir des problèmes de pubalgie.
Pour démarrer, il vaut mieux commencer dehors.
Alors,
quoi,
ouais, c'est ça. Après le tapis, moi, je ne suis pas pour. Allez-y, en milieu naturel, c'est chouette. On est à l'extérieur, on prend l'air.
Même sous un peu de pluie, c'est pas grave, gênant.
Il y a des baisses, il y a plein de choses, on va pas fondre avec un peu de pluie.
Moi, c'est le souffle parfois qui me manquait assez vite en fait en courant. Est-ce qu'il y a un moyen de bien respirer quand on court? Il faut y penser ou on n'y pense pas? On force, enfin.
Alors, et généralement, il faut que ce soit en adéquation avec le mouvement.
Si je suis soufflé, c'est que je vais trop vite, c'est ça? Je ralentis dans ce cas?
Bah, bien sûr. Oui, complètement. Après, c'est pas mal aussi de varier les allures. Hein. N'hésitez pas à commencer un petit quart d'heure quand vous êtes rodé déjà, et puis se dire, bah tiens, pendant une minute, je vais accélérer, et puis je reviens.
D'accord, on peut changer comme ça.
On change les allures, et puis les reliefs, faites des montées. Si vous êtes dans une ville où faites les marches, etc.
Oui,
n'hésitez
pas. On verra à la fin de la saison. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc Delorme. Merci à
tous les trois pour ces conseils culinaires, ce décryptage beauté également aujourd'hui. Allez, cette émission touche à sa fin. Vous qui nous écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. On sera de retour demain avec Julia Vignali et dès 11h bien sûr. Et Julia, demain, qu'est-ce qui sera au menu ?
Eh bien, Mélanie, demain, on va s'intéresser aux adolescentes avec cette question, comment bien les accompagner à l'ère des réseaux sociaux, car ça peut-être être un vrai souci pour les parents avec, vous savez, toutes ces applis, ouais, le rapport au corps qui est décomplexé, certaines le mettent en scène sans forcément mesurer les conséquences. En fait, nos jeunes filles sont des funambules sur un fil, alors comment les aider à trouver l'équilibre ? On vous donnera des pistes dès demain.
Allez, demain, Julia, il y aura aussi de nouveaux sujets tendance, de la santé, donc d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos questions sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Romain Desarbres avec Europe Midi.